il y a maintenant une nouvelle notion de délocalisation sur place. Ils n'ont plus besoin d'aller, c'est coûteux d'aller plus loin et ramener tout le matos, toute l'usine. Ça se passe ici en Europe. On délocalise sur place. Et la main-d'œuvre est là. Et les conditions de travail qu'on veut imposer, qu'on sait facilement, mettre sur place ailleurs qu'en Europe, on les met ici et c'est les sans-papiers, c'est les travailleurs sans-papiers qui rentrent dans ces machines.
C'est vrai que les médias peuvent informer hein, de ce qui se passe, mais quand il y a eu l'opération de les cabines téléphoniques, il y a eu 187 cabines téléphoniques visitées par la police, donc la police rentrait à ce moment-là, on fermait la porte, contrôlait tout le monde à l'intérieur et emmenait les gens qui n'avaient pas de papier. Ils ont informé en disant qu'il y a eu une opération de police menée par le ministère des Finances nommée Tam Tam pour attaquer la fraude des cabines téléphoniques. Conséquence de cette opération, une centaine de sans-papiers arrêtés, une 25 qui n'avaient pas les permis ou les autorisations pour exploiter ces commerces. Et voilà, ça c'est l'information qu'on nous donne. Comme il disait, ça n'a pas un rôle pédagogique, parce que moi aussi je peux parler de tout et de rien sans jamais prendre des positions, sans jamais dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que si je commence à faire ça, il faudrait que je m'engage à ce moment-là, que je prenne position et que je dise je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et si je ne suis pas d'accord, alors il va falloir que je fasse une démarche supérieure, que je rentre alors à m'intéresser, à m'engager et à travailler pour que ça n'arrive pas. Donc c'est ça qu'on reproche aux médias, au monde politique, aux syndicats, à tous ces gens qui, quand ils ont besoin d'avoir un soutien dans une période électorale ou dans une campagne quelconque, là ils vont chercher les immigrés, là ils vont revendiquer que les sans-papiers ont besoin de vivre en harmonie et qu'ils ont tous les droits du monde. Mais en dehors de ça, comme la période qu'on vit aujourd'hui, dans aucun parti politique ni syndicat, les sans-papiers sont une priorité. On peut continuer comme ça à rafler les sans-papiers, à les enfermer, à les expulser, et même ils peuvent continuer à mourir, comme il y en a eu récemment. Il y a eu 5 personnes qui sont mortes depuis Samira Adam. Tout le monde parle de Samira Adam, quelque chose qui s'est passé et qui a marqué nos esprits, mais il y en a eu encore 5 depuis. Et 2 maintenant, au mois d'août. Hein. Donc, ça, personne n'a réagi de ce qui s'est passé au mois d'août. Alors que quand Samira Adam est mort, tout le monde a réagi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vivait un contexte, une période politique ou économique bien particulière qui a fait que... Je ne sais pas. Donc c'est ça qui m'étonne un peu, comment on peut faire réagir. Et on peut continuer comme ça toute la soirée à étaler tous les malheurs et toutes les choses qui arrivent au sans-papiers. Mais le but pour moi, c'est aussi d'arriver à des solutions. Comment est-ce qu'on peut aider les sans-papiers à s'organiser, à se défendre, à les soutenir? Parce que c'est ça, on étale les problèmes, mais on étale aussi les solutions. Nous, dans notre comité, dans notre collectif, on visite les centres fermés. On va aux aéroports quand ils vont se faire expulser pour parler avec les passagers de l'avion où le sans-papier va se faire expulser. On essaye d'avoir des avocats, des juristes qui les soutiennent, en tout cas les familles, les amis. Quoi. Il y en a un qui se fait arrêter pour essayer de les soutenir, pour essayer de les épauler, de les aider, dans le but qu'un jour, ils prennent aussi leur destin en main, qu'ils sortent un peu de la peur, parce que la peur les fait... Les cachent, les maintiennent dans leur maison avec l'attente qu'un jour ils vont se faire arrêter, expulser, et ils ne peuvent pas se montrer, ils ne peuvent pas montrer leurs problèmes au grand jour. Et ça, c'est aussi une façon de traiter le thème des sans-papiers. Si on les maintient dans la peur, dans la précarité, ben alors personne ne voit ce qui se passe. Dans les manifs des sans-papiers, on n'arrive pas à dépasser par exemple le nombre des 500 personnes, normalement. 500 personnes, une manif. Je sais pas, c'est pas beaucoup. Mais s'il y avait 1000, 2000 personnes, là on en parlerait, et les médias en parleraient beaucoup plus. Parce qu'il y aurait, disons, un impact dans la rue, un impact dans les mobilisations. Et ça serait un sujet beaucoup plus important, disons, au niveau, dans l'actualité en tout cas.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a, il y a un nombre, il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens viennent. Ça peut être effectivement parce qu'ils sont dans un pays qui est en guerre, ça peut être parce qu'ils ont des problèmes personnels qui, par rapport au régime, ça peut être qu'ils ont envie d'améliorer leur situation de vie, ça peut être pour une chimère aussi, ça peut être pour plein de choses. Le résultat de ça, c'est que dans tous les cas de figure, c'est des gens qui généralement laissent tout. Ou qui laissent beaucoup et qui se mettent dans une situation et on les met dans une situation où le retour est impossible. Ça c'est je dirais quelque chose qu'on pour si on veut prendre les gens dans leur globalité. Alors après c'est vrai que par rapport à la convention de Genève, alors là bon là on pourrait en parler pendant des heures parce que effectivement la convention de Genève c'est un texte qui donne un principe général et c'est au pays d'organiser une procédure pour faire appliquer ces principes généraux. Alors après, effectivement, comment est-ce que les pays appliquent et comment est-ce qu'ils lisent ces principes généraux et qu'est-ce qu'ils vont y mettre concrètement comme, comme condition pour considérer que ce critère général est d'application ou non. Alors après, il y a plein de discussions, notamment sur cette question de savoir si un réfugié, déjà la notion de réfugié politique en tant que tel n'est pas la notion qui est considérée par la Convention de Genève. On parle de réfugié. Après, les raisons, elles peuvent être multiples. Et le fait, enfin, économiquement, ça pourrait être, on pourrait reconnaître quelqu'un comme réfugié parce qu'il a une persécution. Je sais, la différence qu'on peut faire à un moment donné entre économique et politique, parfois, elle n'a pas de sens. Par exemple, un exemple, au Maroc, qui est un pays tout proche, un des mouvements sociaux les plus importants, ce sont les chômeurs diplômés qui contestent la politique du gouvernement par rapport à. Récemment, il y avait les Iraniens qui ont fait beaucoup d'actions, etc. Il y avait parmi eux des gens qui avaient perdu leur boulot parce qu'ils avaient contesté quelque chose dans le règlement d'ordre intérieur de l'usine. Et puis, donc, le mollah qui dirige l'usine les a mis dehors et ils ne trouveront plus de boulot. C'est économique, c'est politique. Enfin, donc, tout ça, c'est des choses qui sont. Je sais pas. Donc moi, je crois que ce qui est plus grave, par exemple maintenant, c'est que donc il y a une directive européenne qui est en train de se rédiger. Sur le principe, tous les pays sont d'accord. Le texte préparatoire, en fait, on parle de l'application de la Convention de Genève, mais si, on veut donc faire une procédure commune à tous les pays européens dans l'application de la Convention de Genève. Et si on lit bien les textes. On voit bien que ce texte-là ne respecte plus la Convention de Genève. Donc, d'une certaine manière, on est en train de l'abolir, tout simplement. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, ça a été dit, et ça a été publié dans la presse, c'est vrai que Amnesty International l'a dit, Human Rights Watch l'a dit, même le HCR, c'est plein. Et donc, tout ce que maintenant... Amnesty International ne demande pas aux hommes politiques européens de ne pas signer ce texte, ils demandent à la Cour européenne des droits de l'homme de casser ce texte, ce futur texte. Parce qu'il n'y a même plus de confiance, finalement, dans les partis de gouvernement. Voilà. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. Donc on est en train de créer une espèce de byzantinisme politique où on parle toujours et toujours de l'application de la Convention de Genève, qu'on n'applique plus depuis déjà pas mal de temps. Et voilà, donc je veux dire, c'est ça un peu la situation actuelle.
Je ne crois pas que les gens qui arrivent ici en Europe, c'est les gens les plus pauvres. Au contraire, la majorité des gens qui arrivent à débarquer ici en Europe, c'est des gens qui ont les moyens. Il faut avoir les moyens pour pouvoir voyager. Les pauvres restent chez eux. Même dans le pays, ils ne voyagent pas beaucoup. Les pauvres, ils n'ont pas les moyens de bouger. Ils n'ont pas aussi... Les gens sont devenus de plus en plus citadins, donc bougent moins qu'avant. Ils sont contraints de rester chez eux, ils ne prennent même pas de vacances. À peine ils arrivent à survivre chez eux. C'est les gens qui ont des moyens, qui arrivent à bouger, à débarquer ici en Europe, au Canada, aux États-Unis. Donc c'est pas essentiellement pour des raisons économiques, c'est pour beaucoup d'autres choses. Les gens, comment dire, je dirais tout simplement, il y a pas mal de gens qui ont une certaine image de l'Occident, qu'on respire mieux, qui veulent respirer mieux, qui débarquent ici pour essayer de refaire une autre vie, pour mieux respirer, parce qu'ils se sentent, je dirais, étouffés chez eux.
Chez nous en Suisse, et je ne sais pas si c'est semblable ici en Belgique et dans le reste de l'Europe, la loi pour l'asile a changé. Dans le sens que le demandeur, il fait sa demande, et puis il attend. Et entre-temps, évidemment, il ne peut pas travailler. Il attend, il reçoit la réponse. Et si elle est négative, et dans 95% c'est négatif, il va faire un recours. Et avant, pour ce recours, il fallait que 3 juges prennent en considération ce recours. Et maintenant, c'est un seul. Et ça change complètement, évidemment, parce que si ce seul trouve que non, alors c'est non. Avant, c'était quand même 2 qui devaient être non, et ça change un peu. Et il y a une autre chose qui, à mon avis, n'est pas correcte, c'est que l'État a le droit de prendre contact avec le pays d'origine, et donc d'informer la police qu'il y a quelqu'un qui a demandé l'asile, et évidemment, ils vont aussi échanger un peu les informations que lui, il a données pour comme raison de ne pas vouloir rentrer. Et il aura très probablement une réponse négative sur son recours, et il sera expulsé, il va rentrer dans le pays où on est déjà informé sur tout ce qu'il a fait en Suisse. Ça, c'est arrivé dernièrement avec quelqu'un qui a été expulsé à Moscou, qui était de la Tchétchénie. Et après, j'ai vu les photos de ce mec qui était complètement blessé. C'est la folie. Donc, à mon avis, la loi de l'asile commence à plus tellement protéger celui qui demande l'asile. Et ça, je trouve vraiment dangereux.
Avant de venir ici, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais dire ou pourquoi est-ce que je vais venir ici. Je ne suis pas un prof de l'UNIF, encore moins un chercheur. Je n'ai jamais fait une thèse sur l'immigration. Je suis juste quelqu'un qui est sensible à cette problématique et qui essaye de soutenir et d'aider avec mes moyens. Et donc cette démarche d'étudier ou rechercher quelle est la meilleure solution par rapport aux politiques internationales ou même nationales et de trouver un accord, des solutions, d'étudier tous les textes pour savoir quel est le meilleur qui s'adapte, même progressiste ou révolutionnaire, je pense que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le rôle d'un petit collectif comme le nôtre. Le nôtre, à mon avis, devrait s'occuper de continuer à soutenir, de continuer à aider dans la base, et de ne pas se prendre la grosse tête à vouloir changer les politiques immigratoires ici en Belgique, parce que c'est trop ambitieux. Je ne pense pas qu'on pourra arriver un jour, en tout cas pas nous tout seuls. Je pense qu'on pourra arriver tous ensemble, tous les gens qui pensent que cette politique qu'on vit aujourd'hui dans les sans-papiers et l'immigration sont une partie des conséquences, pas toute la conséquence. On peut la changer. Il faut lui donner un nom. Je pense qu'il y a des gens qui disent néolibéralisme, capitalisme, globalisation. Tout ça, c'est un peu la même chose, dans le fond. Ce qu'on vit, c'est les conséquences des localisations, immigration. Donc nous on se situe à ce niveau-là, au niveau là en bas avec ces gens avec qui on vit tous les jours. Et donc notre revendication est la régularisation de tous les sans-papiers pour l'instant et restera la régularisation dans les jours et les années à venir à mon avis.
Au niveau des revendications, on avait produit quelques textes de fond auparavant avec l'ambassade universelle et d'autres groupes qui travaillent un peu sur la problématique. Et la revendication essentielle en fait qu'on a mis en avant après, je dirais, une longue réflexion, c'est la liberté de circulation et d'installation des personnes. Et de là, comment dire, viennent d'autres revendications qui sont logiquement, qui se vivent logiquement, qui sont quand tu dis la liberté de circulation des personnes et d'installation, beaucoup de choses sont. Tu dois abolir beaucoup de pratiques existantes, plus de centres fermés, plus de nécessité. Les gens n'auront plus. Pourquoi les gens du Sud, par exemple, devront se casser la tête pour obtenir un visa pour débarquer ici en Europe, alors que les Européens n'ont pas besoin de visa, peuvent aller là. peuvent circuler librement pratiquement partout dans le monde, sauf quelques exceptions. Par rapport à ces inégalités, et ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que l'Europe ou l'Occident en général va être envahi par les pays du Sud. Les gens, ça facilitera la mobilité des gens, et les gens pourront venir et repartir quand ils voudront.
D'accord sur la revendication, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que d'une certaine manière, on nous place toujours devant des alternatives infernales comme ça. On nous dit mais vous êtes contre le fait qu'il y ait des centres fermés, vous êtes contre le fait que finalement on recule, on n'arrête pas de régresser en matière de droits en Europe. À ce moment-là, ça va être l'invasion. Et donc on est toujours placé dans des situations des impensables. En fait, on est devant des alternatives infernales où on coupe toujours la possibilité de penser quoi que ce soit. Et donc voilà, je crois que c'est la revendication sur la liberté de circulation, c'est aussi essayer d'ouvrir la pensée, de dire bon ben voilà comment est-ce qu'on va dans cette direction là déjà, je veux dire aller dans cette direction là et voir tout ce que ça implique en termes de rapport entre les gens, entre les personnes. Ou sinon, je trouve quand même la revendication fondamentale, c'est la régularisation, parce que bon effectivement. Autant la liberté de circulation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée collective et qui prend énormément de temps, autant pour la régularisation, c'est quelque chose d'immédiat pour toute une série de gens qui vivent des situations vraiment très difficiles.
Voilà. Je vais laisser le mot de la fin sur ce qu'il voudra au réalisateur. Bah oui, sur ce que tu voudras. Enfin, c'est la moindre des choses qu'on te laisse le dernier mot. Enfin, l'avant-dernier, parce que moi, je dirais bonsoir à tout le monde. Mais...
Oui. Moi, personnellement, je continue à faire des films comme ça et je trouve très bien ce que vous faites là. Et merci d'être venu.
Voilà, ben, c'est une belle fin. Merci d'être venu. En tout cas, merci à vous tous. Merci beaucoup. Vous.